Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 19 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
En Tunisie, le candidat Nabil Karoui, en lice pour le second tour de la présidentielle, reste en prison sur décision de justice.
Plus de 300 autres Nigérians ont été rapatriés d'Afrique du Sud après les récentes violences xénophobes dans ce pays.
Une bonne nouvelle pour la paix, a réagi Kigali après la mort du leader des rebelles Hutus rwandais des FDLR en République démocratique du Congo.
Au Mozambique, des dissidents de l'ex-rébellion de la RENAMO revendiquent deux attaques.
Un acte de guerre de l'Iran, estime le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, en visite en Arabie Saoudite après les attaques contre des installations pétrolières saoudiennes.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Tunisie, une nouvelle demande de libération de l'homme d'affaires Nabil Karoui, en lice pour le second tour de l'élection présidentielle, a été rejetée hier. Les précisions d'Irénée Herman Ngbo.
Le juge a refusé de statuer, se déclarant incompétent, a indiqué maître Kamel Ben Messoud. Nous allons faire appel, a-t-il ajouté. Le juge d'instruction avait décidé en juillet le gel des biens de M. Karoui et de son frère Gazi, ainsi que d'une interdiction de quitter le territoire. C'est la troisième juridiction à se déclarer incompétente, a déploré un des avocats de M. Karoui, maître Nazisoui, rappelant que la cour d'appel a également refusé de statuer le 3 septembre, tout comme la cour de cassation 10 jours plus tard. M. Karoui, dont la candidature a été validée par l'instance chargée d'organiser les élections, a fait campagne à travers son épouse Salwa Smaoui et la chaîne de télévision qu'il a fondée Nesma. Poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, il a été arrêté le 23 août, soit 10 jours avant le début de la campagne. Son arrestation avait suscité des interrogations sur une instrumentalisation de la justice. Néanmoins, il est sorti deuxième au premier tour de la présidentielle avec 15,58% des suffrages, derrière Kaïs Sayed, 18,4%.
En Algérie, l'armée durcit le ton après l'annonce d'une élection présidentielle malgré le rejet de la rue. Elle a indiqué hier qu'elle empêcherait désormais les manifestants des autres régions de venir se joindre au cortège de la capitale Alger. Le point avec Eki Abadou.
J'ai donné des instructions à la gendarmerie nationale pour empêcher la venue de manifestants d'autres préfectures à Alger, a déclaré hier le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et homme fort du pays. Cette interdiction est le dernier tour de vis contre les manifestations. 22 personnes ont été interpellées vendredi. Lundi, une autre figure de la contestation, Samir Ben Larbi, a été arrêté. L'opposant Karim Tabou est écroué, ainsi que Lagdar Bourega, 86 ans, et ancien vétéran de la guerre d'indépendance. Ils sont poursuivis pour atteinte au moral de l'armée. Dimanche, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a annoncé que la présidentielle est prévue le 12 décembre. Le général Gaïd Salah avait réclamé qu'une date soit vite fixée suite à l'échec d'une première tentative le 4 juillet, faute de candidats. Depuis bientôt 7 mois, l'Algérie est secouée par des manifestations qui ont abouti à la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Elles se sont poursuivies sans faiblir pour réclamer le départ de l'ensemble du système.
En République démocratique du Congo, l'armée a tué Sylvestre Mudakumura, un chef de guerre rwandais, commandant suprême de la milice Hutu FDLR, active depuis 25 ans dans l'est du pays. Il a été tué dans la nuit de mardi à mercredi, à quelques 60 km de Goma. Pour Kigali, il s'agit d'une bonne nouvelle pour la paix. Visé depuis juillet 2012 par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, Sylvestre Mudakumura, 65 ans, était poursuivi pour crimes de guerre commis sur des civils congolais en 2009 et 2010. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
RDC toujours, 14 personnes ont été tuées et 4 blessées dans une attaque des miliciens contre le village de Ngadou dans la région orifère de l'Ituri, théâtre de violence depuis des mois. Ce bilan a été confirmé par l'administrateur du territoire de Djougou. En juin, 160 personnes ont été tuées et plus de 300 000 autres ont fui les violences d'une milice locale, selon des chiffres officiels impossibles à vérifier.
Au Liberia, le président George Weah s'est rendu hier matin sur les lieux de l'incendie, peut-être provoqué par un défaut électrique, et qui, dans la nuit de mardi à mercredi, a coûté la vie à au moins 26 jeunes élèves d'une école coranique, dont plusieurs Guinéens. Dans la soirée, son homologue guinéen a de son côté exprimé sa vive émotion. « Les enfants ont été surpris pendant leur sommeil », a dit à l'AFP Amadou Chérif, un responsable de la communauté Peul, dans laquelle, selon lui, s'est produit le drame dans les faubourgs de Monrovia, la capitale.
Plus de 300 Nigérians sont arrivés hier à Lagos suite à la vague de violences xénophobes en Afrique du Sud qui a fait au moins 12 morts début septembre. Officiellement, aucune des victimes n'était d'origine nigériane, mais des centaines de commerces ou de biens nigérians ont été brûlés ou pillés. Il s'agit du second vol d'évacuation depuis Johannesburg en une semaine.
Au Mozambique, des dissidents de la RENAMO, l'ex-rébellion devenue principal parti d'opposition du pays, ont revendiqué mercredi 2 attaques contre des véhicules et ils ont menacé de poursuivre leur raid si la campagne pour les élections générales d'octobre n'était pas suspendue. Le gouvernement de Maputo et la RENAMO ont signé en août un accord de paix censé mettre en terme définitif à un conflit de plus de 40 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, en visite mercredi en Arabie Saoudite, a qualifié d'acte de guerre l'attaque contre des infrastructures pétrolières du royaume, l'attribuant de nouveau à l'Iran, et ce, peu après la présentation d'une enquête saoudienne selon laquelle Téhéran a incontestablement parrainé l'attaque. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Dépêché en Arabie Saoudite afin de coordonner les efforts pour contrer l'agression iranienne dans la région, M. Pompeo a réaffirmé que l'Iran était responsable des frappes dévastatrices de samedi revendiquées par les rebelles yéménites houthis, tandis que le président américain Donald Trump affirmait depuis Los Angeles disposer de beaucoup d'options pour répondre à l'Iran. À Jeddah, le chef de la diplomatie américaine a rencontré l'homme fort du pays, le prince héritier Mohamed Ben Salman. C'était une attaque iranienne, ce n'est pas venu des Houthis, a insisté M. Pompeo à son arrivée, évoquant un acte de guerre et assurant que les équipements utilisés ne sont pas connus comme faisant partie de l'arsenal des Houthis. Riyad a de son côté accusé l'Iran d'avoir incontestablement parrainé les attaques. Lors de la présentation d'une enquête officielle, le porte-parole du ministère saoudien de la Défense, Turki al-Maliki, a dévoilé des débris de drones et des missiles de croisière. Le responsable saoudien n'a toutefois pas accusé directement l'Iran d'avoir lancé les attaques depuis son territoire. Une enquête doit déterminer l'origine exacte des tirs, a-t-il dit. Issameddin Hachina, conseiller du président iranien, a qualifié sur Twitter cette présentation de désastre médiatique pour l'Arabie Saoudite, le lieu de fabrication et de lancement des missiles n'ayant visiblement pas pu être établi. M. Trump a annoncé mercredi sur Twitter avoir ordonné un durcissement substantiel des sanctions contre l'Iran et a ajouté plus tard qu'il en préciserait les détails d'ici 48 heures.
Le président Donald Trump a nommé hier Robert O'Brien, son émissaire spécial pour la libération des otages, au poste de conseiller à la sécurité nationale, pour succéder à John Bolton. Les détails avec Nathalie Barge.
Robert O'Brien sera le quatrième conseiller à la sécurité nationale du président Trump. John Bolton a été limogé le 10 septembre par le président américain qui a évoqué ses nombreux désaccords avec lui sur l'Iran, la Corée du Nord et l'Afghanistan. L'administration Trump met en avant ses excellents résultats dans la libération d'otages ou de prisonniers dont la détention à l'étranger est considérée par Washington comme injuste ou politiquement motivée. Il a notamment obtenu le retour aux États-Unis de plusieurs Américains détenus en Corée du Nord, ainsi que du pasteur Andrew Brunson, relâché par la Turquie au terme d'une crise diplomatique. Donald Trump avait créé la surprise en juillet en dépêchant Robert O'Brien au procès pour violence en Suède du rappeur américain Asap Rocky, qui a finalement été condamné à de la prison avec sursis.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est retrouvé hier dans l'incapacité de former un gouvernement après être arrivé au coude à coude avec son rival Benny Gantz à l'issue des législatives. Cette situation ouvre la voie à des tractations douloureuses pour tenter de former une coalition. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Niger investira près de 4 milliards de dollars d'ici à 2021 et 7 milliards de dollars jusqu'en 2031 pour booster son industrie pétrolière. Cet investissement gonflera les recettes fiscales de l'État de près de 45%, soit environ 300 à 400 milliards de francs CFA à partir de 2022. Cela équivaudra à un taux de croissance de 12% pour le pays. À partir de 2022, le pétrole représentera près de 24% du PIB du Niger. Jusqu'ici, le brut contribue pour 4% au PIB. L'Ouganda bénéficiera d'une aide de la Russie pour développer l'énergie nucléaire à travers ses gisements d'uranium. Les deux pays viennent de signer un accord intergouvernemental de coopération dans le domaine du nucléaire civil. Ce partenariat prévoit des travaux communs dont la création d'infrastructures pour l'énergie nucléaire, la production de radioisotopes destinés à l'industrie, la médecine, l'agriculture ainsi que la formation du personnel. Terminons avec deux banques angolaises qui ont décidé de publier des listes de noms de personnes physiques et morales ayant des dettes envers elles afin de tenter de résoudre le problème selon le forum Macao. Banco Kev a adopté cette mesure de recouvrement coercitif des prêts après avoir enregistré une perte de plus de 5 milliards de dollars en 2018 et accumulé des créances irrecouvrables d'environ 58 milliards de dollars l'an dernier. Deux semaines plus tôt, Banco de Pupunca et Crédito avait publié une liste de 160 entreprises ayant des dettes envers la plus grande banque publique d'Angola.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Ligue Europa ce soir.
Oui, Arsenal, la finaliste de la dernière édition, entame la compétition avec un déplacement difficile à Francfort. Demi-finaliste la saison écoulée, le FC Séville, 5 fois vainqueur de la C3, débute sa quête d'un nouveau titre très loin de l'Andalousie, en Azerbaïdjan contre Karabakh. Parmi les autres cadors, Manchester United affronte les Kazakhs d'Astana. À Old Trafford, l'AS Rome reçoit le club turc de Başakşehir et son voisin, la Lazio, se déplace en Roumanie pour affronter le Cluj. Dans le groupe G, les Rangers reçoivent le Feyenoord Rotterdam et le FC Porto, les Young Boys de Berne.
Le PSG a réussi sa rentrée européenne en Ligue des Champions.
Les Parisiens du Sénégalais Idrissa Gana Gueye et du Camerounais Éric-Maxime Choupo-Moting ont su classer le Real Madrid au Parc des Princes 3-0 avec un doublé de l'Argentin Angel Di Maria. L'autre club madrilène, l'Atlético, a contraint la Juventus Turin au partage des points en Espagne 2-2. 3-0 pour Manchester City devant le Shakhtar, 2-2 en Grèce entre l'Olympiakos et Tottenham, carton plein pour le Dynamo Zagreb face à l'Atalanta Bergame, 4-0.
Le club tunisien du CS Sfaxien se sépare de son entraîneur.
Après un début moyen en Ligue 1 tunisienne, la défaite 1-3 du CS Sfaxien en Coupe CAF contre Paradou AC est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les dirigeants du club tunisien ont alors décidé de se séparer de l'entraîneur Jovevic Neboja. Le Monténégrin n'a pourtant été engagé qu'en août dernier et était sous contrat jusqu'en 2020. Il n'a dirigé que 4 rencontres à la tête des Bianconeros avec un bilan moyen de 2 défaites, 1 victoire et 1 succès dans les tirs au but en finale de la Coupe de la Tunisie devant l'Étoile du Sahel.
Paris et Dakar s'associent pour les JO 2024 et ceux de la jeunesse en 2022.
Les comités d'organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2024 et des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar en 2022 ont signé un accord de collaboration. L'objectif est de faire de ces deux grands rendez-vous sportifs des événements plus durables, responsables et inclusifs, ont annoncé les deux comités lors d'une cérémonie à Dakar. Paris avait été désigné en 2017 pour organiser les JO 2024, alors que l'Afrique attend encore d'accueillir un jour les Jeux Olympiques. Le Sénégal a été choisi un an plus tard par le Comité international olympique pour organiser en 2022 la quatrième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse, une version réduite qui accueille tous les 4 ans quelques 4000 sportifs âgés de 15 à 18 ans.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, l'annulation mardi de la réunion du comité de suivi de l'application de l'accord de paix d'Alger semble compliquer la tâche de la médiation internationale. La CEMA, la coalition d'ex-rebelles, pose désormais des conditions pour toute participation à la tenue d'une réunion avec le gouvernement. Ce blocage fait suite aux questions soulevées autour du statut de Kidal sous contrôle des ex-rebelles. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint Nuhun Togo, opposant politique et expert des questions de sécurité.
Depuis quelques temps, nous avons des problèmes très sérieux concernant tout ce qui s'est passé à Kidal avec des drapeaux du Mali qui ont été brûlés. Les autorités n'arrivent pas à aller, mais jusqu'à présent, c'est qu'on continue à dire que Kidal est avec Bamako. Je pense vraiment qu'on a des points très solides avec Kidal.
Et qui contrôle Kidal alors?
Kidal est contrôlé par la CEMA aujourd'hui.
La CEMA qui est une coalition de groupes armés?
Le groupe armé, les signataires donc de l'accord. Le groupe armé MNA qui s'est transformé en CEMA, donc c'est, aujourd'hui c'est eux qui gèrent Kidal.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Nos amis français qui n'ont pas été très sincères avec nous, parce qu'on est arrivé vers la porte de Kidal, on nous a fait arrêter à Kidal. Le MNA où la CEMA n'existait pas, la CEMA a été recréée et ils ont équipé donc la CEMA. La CEMA contrôle aujourd'hui Kidal avec leur complicité. Après Tombouctou et Kao, on pouvait donc rentrer à Kidal, mais l'armée française, la politique française n'a pas autorisé l'armée malienne d'aller à Kidal.
Et pourquoi donc?
C'est une très belle question qu'on doit poser. Vous savez, nous avons vécu beaucoup de cas similaires ici. Autant Nicolas Sarkozy, ils sont même venus ici pour nous demander l'autonomie. En son temps, j'étais conseiller en communication au ministère de la Défense. Nous avons refusé.
Quelle est la position de Koulouba, la présidence malienne notamment, sur la question?
Les Maliens constatent avec beaucoup de regret. Le président n'a plus de poigne pour faire face à ça. Parce que si vous l'avez suivi, le président de la République lui-même a fait des déclarations dans la chaîne Afrique pour dire que c'est que le choc. Ils voient des gens venir prendre leur énamité et retourner donc, à Kidal et continuer à nous combattre. Aujourd'hui, un président de la République n'a plus la force nécessaire de combattre aujourd'hui ceux qui sont contre la République et ceux qui sont des terroristes. Le cas Kidal donc, inquiète la sous-région, le cas Kidal inquiète Bamako, mais le président de la République n'arrive pas donc, à prendre le dessus. C'est pour cela que le président nigérien est venu jusqu'à Bamako, au palais donc, de Bamako, pour dire en face au président de la République du Mali, pour dire c'est trop, prenez vos responsabilités contre Kidal.
Comment est-ce qu'on pourrait faire pour sauver l'accord d'Alger?
L'accord d'Alger peut être sauvé seulement si les uns et les autres acceptent d'aller dans un débat franc, sincère. On sait en acceptant d'accepter certaines choses dans l'accord, c'est qu'on va vers la division de notre pays. Il est bon que l'ensemble des responsables face à la communauté internationale puissent revenir pour voir la réalité en face et renégocier l'accord pour voir ce qui est applicable qu'on applique et ce qui n'est pas applicable qu'on te dise la vérité en face. Parce que comme on le dit, tout problème bien posé a la solution. Mais là, si l'équation est très mal posée, il n'y a pas de solution.
Nuhun Togo, opposant politique et expert des questions de sécurité.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Le général Steven Stausen, commandant de l'AFRICOM, a réitéré le soutien de l'armée américaine au Burkina Faso pour faire face aux défis sécuritaires. Selon lui, Ouagadougou a besoin de vastes initiatives politiques, économiques et militaires pour contenir la menace sécuritaire. Le général Townsend l'a déclaré après une rencontre avec le président Roch Marc Christian Caboret. Erimani Ragkiza a joint à Niamey l'analyste et directeur du journal L'Événement, Moussa Aksar.
Le général Stéphane a visité le Niger et le Burkina parce que vous savez, il y a un regain d'insécurité dans toute cette bande sahélienne. Il se trouve que déjà l'AFRICOM intervient au Niger où les soldats américains ont pu fortifier certaines positions de l'armée nigérienne, mais aussi ils ont appuyé cette armée et également ils ont formé assez de soldats d'élite de l'armée nigérienne. C'est pour cela que le général Stéphane est passé par le Niger, qui constitue aujourd'hui la tête de pont des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et vous savez aussi que les États-Unis ont une base aérienne importante à Agadez et qui lui permet aux USA de mener des actions soit au Maghreb ou dans le Sahel pour lutter contre les terroristes. C'est pour cela que le général Stéphane s'est rendu au Burkina Faso, qui constitue aujourd'hui, après le Mali, des noyaux faibles dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Au-delà des équipements militaires et de la coopération, quelles sont les ressources dont le Burkina a besoin réellement pour stabiliser la situation?
Il faudrait tout d'abord former les soldats burkinabés. Vous avez eu vent ces dernières semaines du désengagement de certaines forces burkinabées le long de la frontière de Soum. Donc, le général Stéphane est parti notamment pour parler de cet état de fait-là et aussi voir dans quelles conditions appuyer les forces armées burkinabées en mettant aussi l'action sur les actions civilo-militaires dans ces pays.
Vous pensez que c'est pour cette raison qu'il dit que la solution doit venir des forces de défense et de sécurité burkinabées?
Oui, c'est pour cette raison, parce que vous savez, il y a un problème au sein des forces de défense et de sécurité burkinabées. Au niveau de la police, vous avez des syndicats de la police, ces forces auxiliaires, qui ne devraient pas exister dans des pays aujourd'hui qui luttent contre le terrorisme. Tant qu'on ne dissout pas les syndicats au sein des forces auxiliaires, on ne peut pas lutter contre le terrorisme à grande échelle, parce qu'il faut nécessairement les mettre sur des positions avancées, les former pour qu'elles soient intégrées dans les forces armées régulières. C'est pourquoi le général Stéphane a parlé de cet état de fait-là, des forces de défense burkinabées, mais aussi il faudrait faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre les forces de défense burkinabées, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et vous savez qu'il y a eu assez de problèmes avec le régime passé et le régime actuel sur la gestion des forces de défense et de sécurité.
Moussa Aksar, analyste et directeur du journal L'Événement.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, nous revenons sur les violences xénophobes en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a envoyé une mission dans plusieurs pays pour rassurer ses homologues et réaffirmer que l'Afrique du Sud était toujours ouverte aux migrants du continent, et il a promis de punir les auteurs de ces actes haineux. Cette offensive de charme réussira-t-elle à calmer la colère de plusieurs gouvernements envers Pretoria? Ces violences remettent-elles en cause les idéaux panafricanistes sur le continent? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a déclaré que la mort en RDC de Sylvestre Muda Chumura, commandant de la rébellion Hutu des FDLR, est une bonne nouvelle pour la paix et la sécurité dans la région. Sur la mort de ce chef rebelle qui était recherché par la CPI pour crime de guerre, Idriss Fall a recueilli la réaction du général Richard Kasonga, porte-parole de l'armée congolaise.
Ce qui s'est passé, il a été neutralisé de manière définitive après une opération menée de manière professionnelle. Il a été localisé, identifié ensuite, neutralisé définitivement dans les territoires de Rutshuru, dans le groupement Bouisto. L'unité militaire a fait ce travail-là et de manière professionnelle dans le strict respect des droits de l'homme et se suffit au personnage auteur de plusieurs des violences, actes terroristes, a donc été neutralisé de manière définitive par nos forces.
Il était avec d'autres rebelles et combien?
Je ne peux pas vous donner le bilan en ce moment, laisser l'armée faire son travail, ce qu'elle sait faire de manière professionnelle, c'est-à-dire nettoyer les secteurs, et ensuite le bilan sera communiqué en temps utile. Mais ce que je peux dire en ce moment précis, c'est qu'il avait quelques lieutenants avec lui, et lui et tous ses lieutenants ont été neutralisés définitivement.
Est-ce que ça signifie que les rebelles FDLR sont complètement décapités, neutralisés et mis en déroute?
Je voudrais avoir le bonheur de vous le dire, mais je ne peux pas le dire en ce moment. C'est ce que nous lançons un appel. Nous, Forces armées de la République, nous lançons un appel en ce moment à tous les groupes armés locaux qui sont encore, qui sont encore dans nos forêts, de sortir et de se rendre immédiatement de poser les armes, parce que sinon, ces groupes-là vont subir le même sort que ce qu'a connu Moussa Tchoumoura et sa bande.
Il y avait beaucoup de FDLR qui avaient accepté de déposer les armes. Où en est-on dans ces opérations pour les ramener au Rwanda?
Je vous informe que tous ceux qui avaient déposé les armes avaient été les groupes Kanyabayonga, Aoulungu, Atishangani, Angenga, ont été ramenés dans leur pays sans problème. Et nous pensons que c'était la voie de la sagesse parce qu'ils sont partis. Et tous ceux qui seraient restés dans les forêts ou qui n'auraient pas entendu cette voix-là, qu'ils sachent que s'ils ne déposent pas les armes ou se rendent, ils seront traités comme Moussa Tchoumoura, sans distinction.
Après les FDLR, qu'en sera-t-il des rebelles ADF dans la région de Beni, qui sont aussi des étrangers apparemment?
Oui, je vous ai dit que les forces armées mènent des opérations d'envergure pour neutraliser tous les groupes armés locaux et externes. Les opérations, c'est pour zéro groupe armé interne ou externe de la région congolaise, du moins de la partie orientale.
Le général Richard Kasonga, porte-parole de l'armée congolaise.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, une vingtaine de pays africains se concentrent ou se concertent à Yaoundé dans le cadre d'une conférence internationale sur les guichets uniques et les moyens de relever les principaux défis du commerce international. Parmi les sujets abordés, il y a aussi la question du commerce électronique et des échanges sous-régionaux. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
D'après les experts, le commerce électronique est l'un des secteurs d'activité susceptibles de connaître un boom économique en Afrique, à condition que les guichets uniques fonctionnent normalement. Un guichet unique est une plateforme centralisée qui regroupe tous les acteurs intervenant dans les formalités de dédouanement. Dowogo Nankone, directeur général de Jumia, Cameroun.
Aujourd'hui, le guichet unique a une importance très cruciale en Afrique, notamment dans le e-commerce. Cela permettra de créer un commerce intra-régional, de libéraliser un peu le e-commerce et de permettre son hégémonie. Transporter un colis ou un bien d'un pays à un autre est très difficile dans la sous-région. Je pense que cette conférence autour de ce sujet-là permettra de trouver des solutions à ces problématiques-là.
Les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin ont pu tirer profit du commerce électronique après la mise en place des guichets uniques. Au Cameroun, l'activité tarde à décoller et pourtant, ce pays a mis en place depuis deux décennies son guichet unique. Marthe Angéline Mintia, directrice de l'agence de promotion des investissements du Cameroun.
Nous nous encourageons ceux qui veulent investir dans ce domaine. Nous essayons d'attirer les investisseurs. Au Cameroun, c'est encore au stade, surtout des startups, qui jouent d'ailleurs aussi un rôle important.
Pour faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers, l'Organisation mondiale du commerce recommande au pays la mise en place des guichets uniques. Sam Toyota est directeur du développement des affaires au sein de l'entreprise de facilitation du commerce international Webfontaine en Côte d'Ivoire.
Si on élimine les documents physiques et on crée des documents électroniques, déjà le temps de créer ces documents, dès le déplacement de ces documents, c'est le temps gagné. Parce qu'un document est fait une fois et circule sur le réseau de tous les intervenants du guichet unique. Mais ce que je dis, c'est que ce passe là, c'est surtout la vitesse à laquelle les moyens et la connaissance, la capacité technique de faire ça. C'est surtout ça qui m'effraie à ce genre d'implémentation.
D'autres défis restent à relever dans le transport maritime international, souligne Eric Tchingé, un ancien cadre de la Banque mondiale, aujourd'hui directeur général de African Media Initiative.
Il y a combien de pays capables aujourd'hui sur le marché international transporter n'est-ce pas leur production? Le pays aujourd'hui en Afrique qui a cette capacité, c'est l'Éthiopie. L'Afrique du Sud n'en a pas, le Nigeria n'en a pas, le Cameroun encore moins. Il y a un travail à faire. Le bois est transporté par d'autres, le café, le cacao. Et ce sont ceux-là qui assurent le transport, déterminent donc les prix à payer.
L'accord de libre-échange continental africain est entré en vigueur cette année et cela devra inciter les pays du continent à réduire les délais, les coûts de passage des marchandises, à améliorer le climat des affaires ou encore la qualité des services. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Edrissa Sululia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.